Très bien, on va reprendre, si vous voulez bien. C'est que travailler l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Hein. Après un bon repas, c'est le moment de la sieste. Et on vous demande de vous concentrer encore. Ça peut être compliqué. Bon, on va remettre ce petit moment-là dans les mains du Seigneur. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour cette belle journée, pour le temps que nous avons pris dans la convivialité, dans la communion fraternelle. Comme tu as été présent tout à l'heure dans le culte et pendant ce repas, merci d'être présent en ces temps, dans ce moment maintenant que nous allons passer à réfléchir sur l'Église, sur le projet d'Église, sur ce que tu attends que nous soyons dans ce monde. Bénis-nous, Seigneur, rends-nous attentifs, parle à chacun et parle-nous à tous en tant qu'Église. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc hier, il a été question du témoignage personnel et nous devons prolonger maintenant la chose, cette réflexion autour du témoignage de l'Église, hein, de la dimension ecclésiale de l'évangélisation. Je vous propose deux temps pour que nous allons vivre, un temps où on va développer ce sujet, et puis ensuite, après ça, on va avoir un temps d'échange entre nous, et puis un moment de prière autour de tout ça, pour nouer la gerbe. Comment, que dire, l'Église, dans le cadre de la dimension ecclésiale hein, de l'évangile, de l'évangélisation. On a tendance à voir l'Église, ou en tout cas on avait, un certain temps, dans les années passées, avant, considéré qu'on avait notre Église, et au sein de l'Église, on avait un département mission. On envoyait de l'argent en Afrique pour aider les missionnaires, on envoyait de l'argent dans tel endroit, ou même on soutenait un missionnaire qui venait de l'Église et qui allait quelque part. Voilà. Et en disant cela, on considérait que l'Église avait une vision missionnaire et du coup était missionnaire. C'est vrai, c'est bon. C'est important que vivre une pareille chose, de soutenir dans ce cadre-là. Mais hier, nous parlions d'un Dieu qui est missionnaire. Ça demande, si nous voulons vivre la même dimension que lui, qu'en termes de communauté, nous allions plus loin que juste avoir un département missionnaire dans l'Église. Vous comprenez ? Et la responsabilité de l'Église, ce à quoi l'Église est appelée du coup, ce n'est pas tant à avoir un département missionnaire en son sein, mais c'est d'être pleinement missionnaire elle-même. C'est-à-dire, en fait, finalement, le terme qui a été employé, qui est à la mode actuellement, on dit une Église missionnelle. Hein, c'est-à-dire une Église qui n'a pas juste un département missionnaire, mais qui forme les membres de l'Église à vivre en chrétien dans la société dans laquelle ils sont. D'accord ? À faire en sorte que les membres des communautés soient eux-mêmes, d'une certaine manière, des missionnaires, là où ils ont été placés. Hein ? Vous voyez que ça change complètement le rapport aux choses. On avait juste un département missionnaire, on avait quelques missionnaires qu'on envoyait à l'étranger, hein, on en a parmi nous, hein, des missionnaires qui sont comme ça, et on considérait que c'était le tout de la mission de l'Église. Maintenant, l'interpellation qui nous est faite d'avoir le cœur missionnaire de Dieu fait que l'Église a la responsabilité, non pas d'avoir un département missionnaire en son sein, mais d'être là comme un lieu de formation hein, des missionnaires que nous sommes tous, d'une certaine manière. L'Église est là pour former les chrétiens, les membres de l'Église, à entrer en communication, en rapport avec la société séculaire, sécularisée dans laquelle ils se trouvent, à à être là en son sein, l'Église. On pourrait même employer le terme qui va illustrer la chose en disant une Église incarnationnelle. C'est un mot un peu barbare, hein, mais qui parle encore, vous savez, de ce mot-là, incarnation. Hein. C'est-à-dire, on veut être une incarnation, hein, représentation de ce Christ, de ce Dieu ici, dans le monde. Dans le monde. C'est là notre responsabilité. Et du coup, l'Église, la communauté, est, de mon point de vue, moins un endroit où on a des événements d'évangélisation, où on fait des choses pour faire de l'évangélisation, c'est moins cela qu'un endroit où les chrétiens sont là pour grandir dans leur foi, pour s'aguerrir et assumer leur responsabilité de missionnaire, on va dire, dans le monde. Voilà déjà un premier point qui est important. Du coup, ça nous amène quand même à réfléchir sur l'agir de l'Église. Hein, en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? À quoi nous sommes appelés? L'Église doit manifester la présence, la lumière dans la cité. Être une Église qui est présente dans la cité. Voilà le défi d'une communauté, d'une église missionnelle. Elle veut être présente dans la cité. Elle a ce souci-là. Ce que la communauté doit être, et je donne quelques éléments, pistes de ma propre réflexion, vous pourrez la nourrir, vous pourrez la compléter, on va partager autour de ça. Je dirais, la communauté chrétienne, l'église doit être un lieu d'accueil. Et j'en suis convaincu, c'est des groupes de pensée, vous êtes d'accord avec cette idée-là. L'Église doit être un lieu d'accueil. Qu'est-ce qu'on veut dire par dans lieu d'accueil? C'est un lieu, paradoxalement, qui doit être ouvert sur l'extérieur. Ouvert sur le monde, sur les différences, sur l'idée de la différence, parce que c'est la réalité de ce monde. Ce monde nous montre comment les cultures se brassent, comment des mentalités différentes, des visions du monde différentes sont à la porte de l'Église. Et une communauté accueillante, c'est une communauté qui a perçu que le monde là est multiple, il est divers. Et c'est donc une communauté qui va chercher à avoir cette sensibilité d'être ouverte sur le monde, sur donc la différence, les différences. Une communauté où n'importe qui peut entrer sans se sentir jugé. N'importe qui, sans se sentir catégorisé. Voilà comment on pourrait dire. Jésus a accueilli la femme de mauvaise vie dont on dit. Et donc, une église accueillante, c'est une église, qui est sensible à la culture et aux cultures. Et quelquefois même aux sous-cultures. Il n'y a rien d'uniforme. On le sait bien, même juste dans Marseille, il y a plusieurs sous-cultures. On ne peut pas dire aujourd'hui, il me semble, je suis un Marseillais. Et en disant je suis un Marseillais, qu'est-ce que ça va pouvoir dire? Je suis Marseillais, et même de longue date, ça va, on le sait très bien, ça peut aller dans différents sens. parce que il y a une sous-culture derrière marseillais. Hein? Il y a plusieurs sous-cultures. Et il faut savoir tenir compte de cela. Hein? Et l'Église d'aujourd'hui doit être en écho avec la culture, avec la culture et les sous-cultures. On pourra, vous pourrez en dire un mot. L'Église est un lieu, donc je disais un lieu d'accueil pour moi, un lieu, je dirais, de repos, de restauration, de guérison. Voilà des termes qui me viennent pour parler de le défi de l'Église que nous devons former. Un lieu de repos. Dans un monde où les gens sont fatigués, sont oppressés, sont sous pression, vivent des choses difficiles, l'Église peut devenir et là pour être comme un havre de paix, un lieu où ils vont pouvoir se reposer, où ils vont pouvoir décompresser. Et c'est pas peu de le dire. Le monde est tellement agressif, hein, est tellement violent, vous le savez, que souvent nos communautés, nos églises sont voient débarquer, doivent venir des personnes qui sont complètement brisées, hein, déstructurées, hein, à cause de la violence de la vie. Eh bien, c'est l'honneur de l'Église que de pouvoir accueillir ce type de personnes. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu, hein, où ils peuvent venir juste être ce qu'ils sont, juste venir se reposer. Je suppose que ça fait écho chez vous, parce que vous devez être une communauté qui est dans cette dynamique-là. Un lieu de repos pour les gens, voilà, oppressés. Un lieu de repos pour les chrétiens, pour vous. Hein? Ce monde, je connais des personnes, vous connaissez sûrement, qui ont bien sous tout rapport, des chrétiens authentiques qui servent l'Église, peut-être vous en êtes, et qui vivent dans la société et qui ont un boulot dans ce monde, et un boulot oppressant, hein, un boulot qui les met sous pression vraiment. Hein, et c'est même difficile. Hein. Je connais, j'ai un ami très cher, qui est ancien dans une communauté, très engagé dans son église. Il travaille pour une grosse boîte en France, une grosse société en France. Et bien, il arrive quelquefois à fin de week-end, il est complètement lessivé, il est tout tremblant, il est mal à cause de la pression qu'il y a. Et bien, l'église, la communauté, doit pouvoir être là, hein, pour ces gens-là, pour qu'ils puissent trouver auprès de la communauté, dans la parole, à donner, expliquer tout cela, de quoi se requinquer. La réalité. C'est en cela que l'Église est une réponse à ce monde. C'est en cela que l'Église est une réponse à ce monde. C'est-à-dire qu'elle veut, elle veut avoir comme ambition de d'être là par rapport au manque, hein, de ce monde, par rapport à tout ce qui est là pour déshumaniser le monde. Voilà. Donc, voilà, un lieu de repos, de restauration, de guérison. Hein, et on sait que l'Église peut être un lieu de guérison, où les gens reviennent, repartent dans la vie, sont défatigués. Moi, j'aime employer ce terme. Ils sont défatigués. Hein, et puis ils repartent, ils se remettent en selle, hein, ils cheminent. Des gens viennent dans l'Église après avoir vécu des histoires terribles dans leur vie, avoir fait des choix de vie destructeurs, et puis au bout d'un moment, dans leur existence, Dieu se rappelle à eux, à leurs bons souvenirs, et puis ils viennent pour tout recommencer. L'Église doit être accueillante pour des gens comme ça. L'Église n'est donc pas juste un lieu de l'annonce de l'Évangile, c'est plus un lieu où l'amour va se vivre de façon concrète. Hein, la communauté. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, c'est ça. Pour que ça se vive, hier, nous avions dit que dans le cadre du témoignage personnel, la notion de la puissance de Dieu était absolument nécessaire, qu'on devait l'intégrer. Hein? De la même manière, dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la communauté qui veut vivre sa vocation pour être ce lieu d'accueil, de guérison, de restauration et autres, il est nécessaire qu'elle compte, cette Église-là, sur la présence de l'Esprit de Dieu qui rend l'Église capable, qui rend l'Église capable de vivre sa vocation de façon pleine et entière. On doit compter, on doit pouvoir compter sur Dieu. Pour que l'Église vive sa vocation, parce qu'on est dans la réflexion sur l'évangélisation ecclésiale, hein, vécue en Église, eh bien, il me semble qu'un des éléments importants, c'est qu'il nous faut prendre conscience qu'il y a vraiment des personnes, hein, qui ne connaissent pas le Seigneur autour de nous. Et il faut qu'on puisse, dans notre cœur, désirer les atteindre. Je me trouvais, il y a quelques mois, dans une toute petite communauté rurale et tout cela. Et effectivement, je plaignais parce que dans l'ancien temps, l'église était pleine, il y avait plusieurs cultes et tout cela. Et maintenant, c'est plus rien. L'église se réduit à peau de chagrin. Il y a très peu de monde et tout ça. Et tout le monde est un peu découragé. C'est la réalité. On se pose la question de mais comment on fait, qu'est-ce qu'on va mettre, on va mourir bientôt s'il ne se passe rien. Et ensuite, quand on pose la question de savoir, mais il y a combien d'habitants ? Non, ici. Oh, tout le monde est parti. Avant, c'était un grand village, c'était même quasiment une ville. Mais tout le monde s'en va, vous comprenez, il n'y a plus de boulot, tout le monde s'en va. Et ça, c'est la réalité. Hein. Je repose la question, mais il y a combien de personnes qui habitent là ? Ben, c'est un petit village de 300 personnes. De 300 personnes. Et c'est là que se pose la question. On se dit, il n'y a personne, le village est vide, alors qu'il y a 300 personnes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a quand même 300 personnes. On est juste 10 à l'église. Vous imaginez s'il y avait 300 personnes à l'église ? Hein ? S'ils quittaient le village depuis l'église pour partir en ville, ce serait toute une autre dynamique. C'est pour dire juste que quelquefois, on se plaint, on cherche et tout cela, mais on n'a pas cette conscience, en tout cas, on l'a oublié, hein, qu'il y a quand même 300 personnes qui se meurent là de ne pas connaître le Christ. Nous, c'est pas, et on sent que ce n'est pas ça qui bouleverse, hein, qui nous remue dedans de nous-mêmes. Je crois que si une église, une communauté veut devenir évangélisatrice, hein, elle doit nourrir en son cœur, en son sein, cette réalité-là, hein, qu'il y a autour d'elle des gens qui se meurent de ne pas connaître le Christ. Hein, ils sont perdus. Et désirer les atteindre. C'est là que peuvent commencer les choses. Parce que ensuite, je dis tout de suite après, c'est ça le début, parce que ensuite vient le fait que nous devons en même temps croire, et croire vraiment, en la capacité de Dieu de faire des miracles de conversion. Voilà, puisque c'est de Dieu qu'il s'agit. Hein ? Croire en la capacité de Dieu de faire des miracles de conversion. Du coup, 300 personnes, ça suffit amplement. pour qu'on puisse voir Dieu agir. Hein? Pourtant, ce n'est pas dans cette logique qu'on se trouve. Enfin, en tout cas, je parle de cette église, je me transpose là. Enfin, oh non, on n'est que 10 là, tout le monde est parti. C'est un village où il y avait 1200 personnes à l'époque. Hein? Un grand village, et puis maintenant, on n'a plus rien. Le pasteur, il vient une seule fois tous les... C'est vrai tout ça. Mais je crois que le cœur, hein, c'est qu'on a perdu cette conscience qu'il y a des gens qui meurent. Hein? Pas connaître le Christ, et que c'est notre responsabilité que de les accompagner dans la découverte du Seigneur pour être sauvés. Donc désirer les atteindre. Que le Seigneur nous stimule notre désir d'atteindre. Et du coup, on va voir le peu de monde qu'on a, le peu de personnes avec qui nous avons contact, on va les voir autrement, hein, s'ils ne sont pas en Christ. On va les voir autrement. Et c'est peut-être ça qui va nous pousser à nous investir dans une dynamique de prière à leur égard et dans une dynamique intentionnelle de leur apporter le Christ d'une manière ou d'une autre. Et dans la confiance dans le Seigneur qu'il puisse faire des miracles. Qu'il puisse faire des miracles pour que ça puisse agir. Donc, ce n'est absolument pas impossible, incroyable, inimaginable que notre Église grandisse réellement de personnes qui vont découvrir le Christ vraiment. Hein? C'est pas impossible. Et je crois que notre responsabilité et la responsabilité de l'Église, c'est moins, à mon sens, d'évangéliser que de nourrir la conviction dans le cœur des croyants que Dieu est grand, Dieu est capable d'agir, qu'il peut faire les miracles, et que le peu de personnes qu'il y a autour de nous sont ceux par qui il veut montrer qu'il est grand. Vous comprenez ce que je veux dire ? Puisse l'Église, la communauté, être un lieu où s'active cet intérêt, où ce sentiment, cette conscience du Dieu capable d'agir et de faire des miracles, et conscience qu'il veut le faire. Donc, du coup, ça va être une communauté où la prière, la dimension de la prière, va être importante, décisive, organisée, construite, réellement. Là aussi, de façon intentionnelle. Une communauté qui travaille, qui veut réfléchir sur l'évangélisation, c'est aussi une communauté qui va travailler sur les lieux de contact avec le monde. Qu'elle a, que Dieu lui a donné. Et je vais très vite sur celui qui me semble être le principal, c'est le culte dans la société. À part le fait que pour chaque personne, nous en avons parlé hier, le lieu de contact c'est nous-mêmes, et dans nos vies personnelles, dans nos vies privées. Hein? Donc je ne reviens pas de tout ça. Au niveau communautaire, il me semble que c'est le culte. Peut-être que vous aurez à redire par rapport à ça. C'est le culte. Donc, du coup, le culte, en mettant en contact, une église qui veut travailler à ça va réfléchir à l'attractivité de son culte. Je me souviens, j'ai été jeune dans un groupe de jeunes, dans l'église dans laquelle j'ai grandi et tout cela, et puis dans le groupe de jeunes, on se demandait, on était nombreux, hein, et poser la question comme ça, et il nous arrivait à nous dire, de se dire, ben, je ne suis pas sûr d'oser amener un de mes amis lors de nos cultes. Hein? On a le groupe de jeunes, donc mes copains, si on en avait, oui, sans problème, je les amènerai au groupe de jeunes. Pas de souci, Il y avait quelquefois des réunions d'évangélisation. Oui, je pourrais amener une réunion d'évangélisation particulière, spéciale. Mais j'aurais la réticence, disait-il, et c'était assez commun, de l'amener au culte. Parce qu'ils estimaient, du coup, que le culte n'était pas adapté, hein, n'était pas attractif pour les gens du monde. Comprenez ? Donc, il y a quelque chose là à réfléchir. Et là, du coup, je cite, mais très vite, on va voir, l'esthétique. Le culte, dans son esthétique, est quelque chose d'important. Hein? Quelque chose d'important. Ça dit quelque chose, ça parle. Donc, c'est important que nos cultes soient beaux. Hein? Je ne dis pas que c'est le cœur, que c'est l'essentiel, c'est tout. Mais il est important qu'il soit beau, avec une belle liturgie, avec des locaux accueillants, adaptés, qui permettent. Vous comprenez ? Si on veut atteindre des jeunes familles, vous comprenez bien que c'est un handicap si on n'a rien pour leurs enfants. Ça va sans dire. Donc, nos locaux doivent être, en tout cas, de façon intentionnelle, on doit chercher à répondre aux contraintes que nous pose ce monde et ceux que nous voulons accueillir en notre sein. Il y a tout un travail à faire dessus. Par rapport au culte aussi, c'est que ça soit compréhensible. Que les gens qui viennent puissent comprendre ce qui se passe. On a plein de choses, on a plein de moments, hein, les habitués savent, hein, et tout cela, mais il est important que quelqu'un qui viendrait pour la première fois puisse comprendre ce qui se passe là. Hein. Même s'il n'adhère pas, même s'il y a au moins qu'il comprenne. On ne veut pas donner l'impression que c'est réservé à des initiés. Et donc, du coup, il faut trouver la manière de faire en sorte que ça soit accessible, notre culte soit accessible à tous. On pourra travailler dessus. Nos cultes, ce temps, bon, dans la prédication ou un truc, en tout cas, dans tout ce qui se vit dans la liturgie, doit avoir un écho avec les préoccupations de nos contemporains. On ne veut pas dire qu'on est des extraterrestres. On ne vient pas d'une autre planète. Hein? On est d'ici, avec les réalités de nos contemporains, les mêmes. Et du coup, il est important que, quand ils viennent, s'ils devaient venir nous entendre ici, même s'ils n'adhéraient pas aux réponses qu'on donne, ils puissent se rendre compte que notre souci, c'est de donner une réponse à ces choses-là. Compréhensible, on pourrait... Voilà quelques éléments que... Je donne, je continue avec les éléments de ma réflexion qui sont des points comme ça et après on pourra discuter. Hein. Je le disais tout à l'heure, je le disais hier, et je vais le répéter justement, notre évangélisation est une évangélisation intentionnelle. On le veut et on crée volontairement les circonstances, les occasions, les choses pour pouvoir être en mesure d'eux. Hein, aussi bien dans les témoignages personnels que dans celui de la communauté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On n'oublie pas que c'est un processus qui prend du temps, et voilà pourquoi, et c'est important ça, parce que nous, si nous le disions hier par rapport à notre témoignage personnel, mais c'est aussi valable dans l'Église, c'est aussi pour cela qu'on va pouvoir retrouver des personnes dans l'Église qui peuvent être là depuis un temps certain, et nous rendre compte qu'ils continuent de se comporter sur tel point ou sur tel point d'une manière qu'on se dirait, mais ce n'est pas possible. Ils ne devraient pas, ces ingrédients, ils ne devraient pas se comporter de cette manière. Mais c'est ça la réalité. Hein? On est en chemin. On est en chemin. Donc, une communauté qui accueille cette idée de chemin pour tous. Une évangélisation qui soit non pas dans la confrontation, nous allons dire, mais qui dit les choses. On a parlé du péché. Comment travailler sur la question du péché pour pouvoir parler de cela dans une société qui refuse de comprendre que c'est la réalité, que c'est le cœur du problème de l'homme. Hein? Il y a tout un travail à faire là. Et il me semble que l'Église est un lieu où les chrétiens vont apprendre à décortiquer ça, comprendre la réalité, à cette réalité-là, de telle sorte qu'ils puissent communiquer et mettre leurs contemporains devant cette responsabilité. Et puis, c'est un lieu créatif, qui doit être créatif, trouver tous les moyens, toutes les méthodes, en fait, pour atteindre les gens. Et c'est dans le relationnel que ça se fait. Je finis avec 4 points. En ce qui concerne l'Église, par rapport à son souci d'évangélisation, il doit y avoir une priorité à l'intercession. C'est une Église qui prie. C'est une Église qui doit devenir une Église de priants, d'hommes et de femmes qui sont dans l'intercession, et c'est une intercession active. C'est quelque chose d'actif là dont il est question. C'est le fait d'envisager, de mettre des noms, des personnes, en disant Seigneur, on combat à genoux dans la prière de l'intercession. Un vrai ministère de l'intercession. C'est une Église qui va avoir une vision claire dans laquelle elle va coordonner, par laquelle une vision qui va coordonner tout son agir. Je ne sais pas si vous avez une vision, si vous avez formulé quelque chose qui est une orientation. Eh bien, en fait, cette orientation-là aide à mettre en mouvement la communauté. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des phrases, des slogans. Ça devrait être quelque chose qui va se traduire comme des panneaux qui nous permettent d'avancer dans un mouvement. Ça nourrit, ces trucs-là vont nourrir notre agir, hein, et ils vont coordonner. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que comme on est une communauté de plusieurs et qu'on vit les choses ensemble, eh bien, on va pouvoir se dire, on choisit d'investir dans telle activité plutôt que dans telle autre parce que celle-ci répond mieux, en tout cas pour un temps, répond mieux à la vision que nous nous sommes donnée, au projet que nous avions, à notre intention première. La vision comme moyen de coordonner l'action de l'Église. L'Église est un lieu de formation avant toute chose, les chrétiens. Un lieu de formation des chrétiens pour équiper les croyants à être ce que Dieu veut qu'ils soient dans le monde. Pour vivre leur foi, ils viennent puiser toute la force, ils viennent puiser tous les éléments spirituels pour pouvoir vivre leur foi dans le monde. Vous voyez ? Donc du coup, je suis plutôt à plaider, non pas pour une église qui fait des activités d'évangélisation, mais plutôt plaider pour une église qui forme, qui soutient les croyants à être dans le monde des hommes et des femmes qui, eux, évangélisent. Vous voyez ? Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire l'autre. Autre chose, on ne va pas organiser des choses en église. Bien sûr que si. Mais ces choses organisées dans l'église, là, sont là toujours dans la continuité du travail d'équiper les croyants à être, eux, des hommes et des femmes qui sont dans la dimension de l'évangélisation. Voilà. Un point qui permet aussi de vivre et de garder de façon intentionnelle la logique de l'évangélisation en tant qu'église, il me semble, on nous dit beaucoup, ce sont les groupes de maison, les groupes et tout cela, qui sont vraiment un bon moyen. Pour quelle raison ? Parce que c'est des lieux où on peut étudier la Bible de façon interactive, et ça, on se nourrit les uns les autres, et c'est vachement important, c'est stimulant. C'est des lieux qui affirment le relationnel entre les gens de façon profonde. Alors vous savez, même ceux de l'extérieur, pas chrétiens, qui viendraient dans un groupe de maison, vous pourriez vous retrouver à accueillir des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui viennent dans le groupe de maison à cause de la compagnie, à cause des gens, à cause du thé et des petits gâteaux, des petits fours. Ça fait partie de la chose, parce que la réalité nous dit que statistiquement, beaucoup, je n'ai pas les statistiques là, mais beaucoup viennent d'abord de la dimension relationnelle. Et c'est ensuite, parce qu'ils vivent ça, parce qu'ils ont quelque chose en ce moment, que l'interpellation de foi peut se faire. Donc, voilà. Il faut tenir compte de cela. Et du coup, par rapport à ça, je dirais, le dernier point, c'est vivre un ministère, je le répète encore une fois, intentionnel. C'est-à-dire les groupes de maison, par exemple, ou groupes de maison en tout cas, les activités de l'Église doivent avoir une intention. J'ai souvent plaidé dans l'Église où j'étais pasteur, régulièrement demandé. Bon, on fait telle chose, parce qu'on faisait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses dans cette église. C'est très intéressant. Mais à chaque fois, je me dis, mais on fait ça pourquoi ? Pourquoi on le fait ? Pourquoi il y a... on avait dans mon église, ils ont encore, avec le prochain, ils ont une chorale gospel, une chorale africaine. Ils ont des réunions de louanges. Ils ont plein de choses. Très bonne étude biblique et tout ce qui a été fait. Et ma question, ça a été toujours pourquoi ? C'est bien de faire les choses, mais il faut avoir une vraie intention, il faut avoir une vraie raison. Hein, et que ces raisons-là collent avec notre projet, notre vision d'église, mais collent aussi avec l'intention de Dieu, le projet de Dieu. Donc, tous les lieux où il y a des rassemblements, où on a contact avec le monde, il faut qu'il y ait là un ministère intentionnel. C'est-à-dire, moi j'ai dit dans l'église où j'étais, c'était juste des exemples, où il y avait une chorale gospel, il a été clair avec le responsable de la chorale que nous voulions que cette chorale, et c'était l'intention, c'est l'aspect intentionnel là dont je parle, que ça soit une chorale d'église. Vous voyez ? C'est une chorale d'église. Pourtant, la moitié, à un moment donné, des membres de cette chorale étaient hors église. Et quelquefois, ça a été plus. Mais il n'empêche que ce qui était important, c'était pas de dire, bon non, on l'a fait, chante pas, parce qu'il y a des gens qui sont de l'église ou qui ne sont pas de l'église. C'était pas ça. C'est quelle était l'intention ? Qu'est-ce que nous voulions faire avec cette chorale ? Est-ce que ça rentrait dans un projet ? Dire, projet de faire que c'est notre... En fait, nous, on avait considéré, moi j'avais considéré que c'était notre premier lieu d'évangélisation pour l'église. C'était, je le dis parce que je crois que vous avez une chorale ici. Et je me disais, Mais en fait, c'est assez fabuleux parce que toutes les semaines, nous, on avait à peu près 16 personnes qui ne sont pas de l'Église, qui ne sont pas chrétiennes, qui étaient dans nos locaux. Hein? On est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'évangélisation? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'évangélisation? On dit, oh, calmons-nous. Qu'est-ce qu'on fait pour l'évangélisation? Regardez, on a 15 personnes qui viennent toutes les semaines dans nos locaux. Eh bien, ayons une intention à leur égard. Réfléchissons comment ces 15 personnes peuvent devenir maintenant notre projet d'évangélisation. Vous voyez? Et donc, ça a entraîné. Bon, bref, l'intentionnalité. Hein? Réfléchir. C'est à ce niveau-là que va travailler l'Église. Je m'arrête là en ce qui concerne ce que je voulais partager quant à la dimension ecclésiale, hein, de l'évangélisation, cet aspect, hein, pour maintenant vous laisser réagir et partager, discuter, nourrir tout cela, non seulement en ce qui concerne l'Église, que en ce qui concerne l'évangélisation de l'Église, que en ce qui concerne l'évangélisation personnelle.